Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 20 janvier 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ce podcast commence bien un 20 janvier, mais en 2025, à Washington, il fait froid, mais très beau. Donald et Melania Trump viennent d'arriver à la Maison Blanche. Ils sont accueillis par Joe Biden et Jill, son épouse.
This was a meeting that was going to last for maybe 10 or 15 minutes and we were just going to get to know each other. We had never met.
L'épidémie de Covid-19 est enfin derrière nous. Les deux couples se rapprochent pour la traditionnelle photo sur le perron. Il y a des rites auxquels on ne coupe pas lors d'une passation de pouvoir. Ça se passe toujours de la même manière. Ils vont aller ensemble jusqu'au Capitole et Donald Trump va prêter serment sur la Bible.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Je reviens dans le présent avant que Donald Trump ne remonte Pennsylvania Avenue en saluant la foule. On est bien en 2022, l'occupant de la Maison Blanche s'appelle bien Joe Biden, mais sa situation et celle de son rival républicain ont tellement changé en un an que tous les scénarios semblent désormais pouvoir s'écrire. Biden versus Trump, deuxième round. Axel, est-ce que tu connais notre chronomètre ?
Je ne l'avais jamais vu en vrai, mais oui, je connais le concept. Hein.
Axel Gildon du service Monde de l'Express, fin connaisseur des États-Unis et donc auditeur régulier de La Loupe. Salut !
Salut !
Ce chronomètre, on l'utilise quand on a besoin de résumer en 30 secondes un sujet épineux, un peu comme le mois de janvier qu'a passé Donald Trump l'année dernière.
Donald Trump et de nombreux élus républicains ne reconnaissent toujours pas l'élection de Joe Biden.
Jamais il n'y a eu de moment comme celui-ci, où il nous enlève cette élection à tous.
Donald Trump a également lancé un appel à la mobilisation.
Les pro-Trump sont donc rentrés à l'intérieur du Capitole, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Twitter, Facebook, ils ont banni ou suspendu Donald Trump après les événements du Capitole.
Il devient le seul et unique président à faire face à deux procédures d'impeachment.
Le 20 janvier prochain, à midi, Donald Trump cédera le pouvoir à Joe Biden.
Mauvais perdant et banni des réseaux sociaux, ses canaux de prédilection. Il y a un an, ça sentait le début de la fin pour Donald Trump, Axel.
Enfin, tous ses opposants l'espéraient. Tous ses opposants espéraient être débarrassés de Donald Trump après sa défaite électorale. Mais Donald Trump étant Donald Trump, eh bien, il n'avait qu'une idée en tête, c'était de promouvoir le retour de Donald Trump. Et il s'y a employé, bien qu'ayant perdu ses 89 millions de followers, un chiffre impressionnant, sur Twitter, il a tout de suite imaginé par quels moyens il pourrait revenir dans les médias. Alors, il en a pensé d'abord qu'il créerait une chaîne de télévision, qu'il participerait à un programme de télévision sur Fox News ou sur la chaîne Newsmax, chaîne conservatrice, mais finalement, la solution qu'il a trouvée et qu'il s'apprête à lancer est l'inauguration d'un nouveau réseau social qui sera lancé, a priori, au mois de février.
Ok, donc Donald Trump n'aura toujours pas de compte Twitter ou Facebook, hein, je rappelle qu'ils l'ont définitivement banni. Mais il aura un compte. Comment ça va s'appeler, ce réseau ?
Donc, ça va s'appeler Truth, c'est-à-dire vérité. Hein. Ça sera écrit en lettres, d'ailleurs, capitales, parce que tout ce que fait Donald Trump est majeur et écrit en gros.
Bien dans le style Donald Trump.
Tout à fait, comme au fronton des immeubles qui portent son nom. Et donc, c'est un peu ironique, bien sûr, parce que la vérité, c'est pas exactement ce qu'il a déployé avec le plus de force sur Twitter. Je vous rappelle que le Washington Post avait comptabilisé le nombre des fake news qu'il avait proférées sur Twitter, et ils étaient arrivés à quelque chose comme plusieurs dizaines de milliers.
En moins d'un an, Donald Trump a donc réussi à bâtir sa propre plateforme. Là, il n'y a plus de risque de se faire exclure. Comment il s'y est pris, Axel ?
Alors, il a fait en fait une levée de fonds. Il a créé une société pour lever des fonds et cette levée de fonds a abouti à la création de la TMTG, c'est-à-dire la Trump Media and Technology Group. Voilà. Donc, il a d'abord fait une levée de fonds de 300 millions et puis il y a encore une deuxième levée de fonds encore plus importante. Et l'idée, si vous voulez, c'est pour lui et pour les créateurs et tous les gens qui sont avec lui, de créer une alternative à Twitter, puisque leur argumentaire, c'est que Twitter a banni Donald Trump, mais que les talibans, par exemple, y ont toujours un compte. Donc, c'est une campagne, en fait, contre la big tech, les grandes entreprises de Californie, notamment Twitter, Facebook, etc., qui sont, selon lui, partisanes. Bon, en gros, vous l'avez compris, c'est Donald Trump contre le reste du monde. Dans ce pays qui est extrêmement polarisé, comme vous le savez, Donald Trump se présente, comme tout d'ailleurs bon leader populiste, en tant que médium direct qui va porter la voix de tous ceux qui n'ont pas accès ou qui pensent ne pas avoir accès aux médias mainstream que sont Facebook, Twitter ou des grandes chaînes de télévision.
C'est un pari osé, mais tu l'as rappelé, les mensonges de Donald Trump ont souvent fait recette par le passé.
Fake, disgusting news. The fake media and the fake news refuse to call it, right?
Ah bah oui, ça on peut le dire, puisque Donald Trump a au moins un succès à son actif, c'est d'être passé de 5 millions de followers au début de sa campagne électorale en 2016 à 89 millions à la fin de son mandat, ce qui est quand même une progression tout à fait remarquable et même hallucinante. Donc il a là une base de fans, de supporters, de followers tout à fait monétisable et c'est en s'appuyant sur ça qu'il espère, et c'est un pari probablement assez raisonnable, qu'une partie d'entre eux va se reporter sur donc Truth, vérité, pour le suivre à nouveau. Et là, les choses sont pensées de manière très sérieuse. Il y a un business plan, il y a des projections. Donc, dans la première année, l'entreprise espère passer de 0 à 16 millions d'utilisateurs. Et à terme, fin 2026, donc après la prochaine présidentielle, l'objectif est de 81 millions d'abonnés. Alors, on verra si ça se réalise, mais enfin, en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont pensées et projetées.
Tu l'as dit, c'est des followers, des supporters monétisables. Ça veut dire que ça générera aussi des recettes ?
Ah oui, alors tout à fait. Alors dans ce cas précis, les recettes pourraient atteindre, selon le business plan toujours, 258 millions en 2026, donc dans 4 ans. Et ça, ce ne serait qu'une fraction du chiffre d'affaires espéré par la société mère, donc Trump Media and Technology Group, qui, dans l'intervalle, aurait commencé à se diversifier avec d'autres programmes, d'autres podcasts et d'autres activités.
Parce que la stratégie est à plus long terme.
Oui, alors effectivement, Trump, dans ce business plan, est le produit d'appel, si vous voulez. Une fois que Trump est lancé sur Truth Social, comme s'appelle cette plateforme, on peut décliner le produit. Donc, c'est aussi un business. Mais pour Donald Trump, dans un premier temps, ce qui lui importe, lui, c'est que ça lui serve à lui.
Un nouveau réseau social comme porte-voix pour son comeback. Pour Donald Trump, l'instrument pourrait s'avérer d'autant plus efficace que son rival montre des signes de faiblesse. Je ressors le chronomètre pour qu'on se rafraîchisse la mémoire. Il y a un an, voilà où en était Joe Biden.
La course est terminée et un nombre record d'électeurs y ont participé.
Le peuple de cette nation a parlé. Il nous donne une victoire très nette.
Une victoire très attendue par les démocrates, celle de Joe Biden.
40 jours de guérilla judiciaire, absence de preuves de la moindre fraude. Les grands électeurs l'ont formellement désigné vainqueur de la présidentielle.
Après avoir gagné la Maison-Blanche, il s'empare désormais du Sénat. Pour les démocrates, la victoire est totale.
Ah oui, ça a assez changé depuis un an.
Vous avez peut-être reconnu Hélène Vissière, correspondante de l'Express aux États-Unis. Salut Hélène, il fait beau à Washington ?
Pas tout à fait, non. On vient d'essuyer une tempête de neige, il y a un froid glacial. C'est un peu comme ce qui se passe à la Maison-Blanche en ce moment.
Ah oui, à ce point-là ?
Sa cote de popularité est dans les choux. Elle est à peu près à 40%, soit 10 points de moins qu'il y a 6 mois. En gros, seul Donald Trump, parmi ses prédécesseurs, a eu une cote de popularité à la même époque aussi mauvaise. L'opinion publique est grincheuse, elle n'est pas contente et ça se voit. Récemment, les démocrates ont perdu le poste de gouverneur en Virginie. alors que c'était un État que Joe Biden avait gagné haut la main.
Est-ce que ça veut dire, Hélène, que Joe Biden n'a rien fait depuis son élection ?
Ben non, au contraire. À ce stade, il a fait même mieux que ses prédécesseurs. Il a fait voter deux grands plans sur sa première année. L'un qui était un plan de relance de 2000 milliards de dollars à la suite de la pandémie. Et il a fait voter un autre plan, cette fois de 1200 milliards de dollars, pour rénover et moderniser les infrastructures américaines. Ce plan, en fait, tous ses prédécesseurs s'étaient cassés les dents là-dessus. Donc, c'est plutôt un exploit. En plus, l'économie va beaucoup mieux. Le taux de chômage a baissé à moins de 4%. La croissance est une des plus fortes du monde. La consommation augmente et les salaires augmentent.
OK, mais alors pourquoi la popularité de Joe Biden s'effondre à ce point-là ?
Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une frustration des Américains à cause de la pandémie qui n'en finit pas, des problèmes d'approvisionnement qui font qu'il y a un certain nombre de rayons dans les magasins qui sont vides, dû aussi au manque de personnel, et puis surtout l'inflation qui a atteint 7%, soit le plus haut niveau depuis 40 ans. Tout ça, c'est pas vraiment la faute de Joe Biden, mais ça donne une perception négative de la situation. Et puis, il y a aussi ses propres échecs. Il avait promis de gérer la pandémie correctement, mais en fait, le message des organisations sanitaires est confus. Et puis, il y a un manque de tests rapides, de tests antigéniques, donc on l'accuse d'être mal préparé. Ensuite, il y a eu le fiasco du retrait de l'Afghanistan, dont les images ont beaucoup marqué la population. Il y a la crise à la frontière, la crise de l'immigration à la frontière. Il y a de plus en plus de migrants qui arrivent et la Maison-Blanche n'a aucune solution, pas plus d'ailleurs que ses prédécesseurs. Et puis, il y a sans doute le fait que Joe Biden, il y avait des grandes attentes à son élection. Il avait promis l'apaisement, il avait promis moins de divisions. Et en fait, s'il n'y a pas vraiment d'ordre nouveau qui se soit instauré, Donald Trump est toujours là et les divisions sont plus que jamais énormes.
Et tu vois ces idées-là se diffuser dans la population ?
Oui, parce que la machine républicaine, via Fox News ou d'autres médias républicains, est sans pitié. Elle est extrêmement bien organisée, avec des slogans très simplistes mais très forts. Donc, Joe Biden, pour la moitié de l'Amérique, est un vieux gâteux. On ne rate jamais une occasion de montrer qu'il a bafouillé ou qu'il s'est trompé. On le compare à Jimmy Carter, ce qui n'est pas un compliment parce que le président démocrate n'a fait qu'un seul mandat et n'était pas du tout populaire.
President Biden trying to make the best of a week of epic failure and embarrassment.
Et toutes ces attaques réellement vicieuses finissent par imprégner l'opinion publique, qui finit par croire que Biden est un vieux sénile. Et en plus, il faut dire que Joe Biden ne vend pas très bien ses succès. Ces milliards de dollars de plans de relance, en fait, l'Américain moyen n'a pas vraiment d'idée de ce que ça va apporter à sa vie quotidienne.
Donc, si Joe Biden arrivait à mettre en place un meilleur service après-vente, Hélène, les choses pourraient s'améliorer pour lui ?
Pas si sûr que ça. D'abord parce qu'il a, c'est une course contre la montre. Les élections parlementaires se passent en novembre, donc il n'a pas beaucoup de temps pour faire voter ses projets. Et ensuite parce qu'il s'est aliéné les modérés. Il a une très courte majorité au Sénat. Son parti a besoin d'avoir tous les démocrates avec lui pour pouvoir faire voter ses réformes. Or, il a deux sénateurs centristes, dont Joe Manchin, dont on avait parlé dans un épisode précédent.
Tout à fait.
Joe Manchin est contre le grand plan, notamment social, avec la maternelle universelle, les allocations familiales et un certain nombre de réformes. Donc, pour l'instant, tout ça est bloqué. Et en plus, Joe Biden, non seulement s'est aligné les centristes, mais s'est aligné aussi la gauche de son parti, qui, elle, trouve qu'il n'est absolument pas assez ambitieux et pousse à des réformes plus importantes.
Je ne vais pas ouvrir l'armoire à archives de la loupe, Hélène, mais j'avais noté ce que tu nous disais cet été. Joe Manchin, c'est l'homme qui tient les réformes du président américain entre ses mains. Bah, bien vu, ça s'est vérifié. Merci beaucoup, Hélène.
Merci, à bientôt.
Joe Manchin a donc commencé à empêcher certaines réformes de voir le jour, mais il ne vous a pas échappé que le mandat de Joe Biden dure encore 3 ans. Entre lui et Donald Trump, le match est donc loin d'être terminé.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un an après la passation de pouvoir, si on symbolisait les parcours des deux finalistes de la dernière présidentielle américaine par des courbes, elles seraient donc en train de se croiser. Et nos auditeurs voient peut-être déjà la scène que j'ai inventée au début de ce podcast devenir une réalité. Pour savoir si ça a des chances d'arriver, je te propose d'essayer d'anticiper la suite de la trajectoire de ces courbes, Axel.
Ok, c'est parti.
Alors on commence par Joe Biden. Comment les choses se dessinent pour lui ?
Donc à court terme, les choses se présentent plutôt mal, hein, puisqu'en pronostic, tout le monde s'attend à une défaite aux midterms, aux élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre, du camp démocrate. Donc déjà d'ailleurs, un signe qui ne trompe pas, c'est que de nombreux démocrates sortants ont déjà annoncé qu'ils ne se représenteraient pas. En général, c'est plutôt le signe que les choses se présentent mal, parce que quand les gens vont vers une victoire annoncée, ils ont tendance à vouloir se représenter. Il est tout à fait possible que les démocrates, qui de justesse ont le contrôle des deux chambres à l'heure actuelle, perdent les deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants. Dans le scénario optimiste pour eux, ils conserveraient le Sénat de justesse.
Est-ce qu'il a des leviers pour inverser la situation de blocage que nous a décrite Hélène ?
Difficilement, parce que là, on se trouve maintenant dans une bataille sur la réforme électorale. Donc, depuis quelques mois, de nombreux États républicains, plus d'une vingtaine, ont déjà pris des mesures pour rendre plus difficile l'accès aux bureaux de vote et au vote tout court à l'électorat démocrate, et notamment à l'électorat noir, par toute une série de mesures. Alors, il faut rentrer un petit peu dans le détail. Par exemple, ces États dont nous parlons, pour certains, veulent empêcher le vote par correspondance et le vote anticipé. Alors, on a un peu de mal à comprendre ce que ça veut dire en France, mais aux États-Unis, on peut aussi voter, les bureaux de vote ouvrent pendant 15 jours, mais c'est pas anecdotique, parce qu'il y a des États où le vote en présentiel, si je peux dire, le jour du vote, est totalement minoritaire. C'est-à-dire que jusqu'à 60% des gens votent par correspondance ou par vote anticipé. Et par exemple, les Noirs, dans certains États, souvent votent le dimanche. Alors, ils vont à la messe, puis ils vont voter. Et précisément, les lois de ces États permettraient de fermer les bureaux de vote le week-end. Mmh. Donc, c'est plus possible d'aller à la messe et voter. Bah, du coup, on vote pas parce que le mardi, les élections ont lieu un mardi, on travaille. Donc, on n'ira pas voter. Donc, tous ces gens-là, déjà, sont perdus. Et puis, encore une fois, il y a d'autres techniques menées par les Républicains. Par exemple, réduire le nombre de bureaux de vote. Alors, évidemment, ils réduisent le nombre de bureaux de vote dans les circonscriptions où l'on sait que le vote est plutôt démocrate, ce qui va allonger les queues de cet électorat-là et donc décourager les électeurs.
Donc des voix en moins.
Donc il y a tout un tas de petites ruses, si vous voulez, pour décourager l'électeur démocrate et notamment des minorités noires. Là-dessus, Joe Biden voulait, lui, à son tour, faire une réforme, mais au niveau fédéral, c'est-à-dire qui concernerait tout le pays, qui viendrait empêcher justement et bloquer ces réformes républicaines. Seulement, il est d'ores et déjà bloqué au Sénat par toujours les mêmes, deux sénateurs de son propre camp qui ne veulent pas voter toutes les lois de Joe Biden pour tout un tas de raisons qui leur appartiennent.
Oui, alors on en connaît un plutôt bien, c'est Joe Manchin. On en a reparlé avec Hélène tout à l'heure et on lui a même consacré un épisode. C'est qui l'autre sénateur ?
Alors l'autre, c'est Kirsten Sinema, qui est la sénatrice d'Arizona et qui, comme Joe Manchin, la joue un peu solo et se détermine en fonction de ses intérêts personnels dans son État qui est plutôt conservateur, plutôt qu'en fonction de ce que lui suggère Joe Biden.
La bataille s'annonce âpre donc sur ce dossier. Est-ce qu'il y a quand même des éléments qui peuvent faire remonter la courbe Biden ?
Pas beaucoup, mais le seul espoir pour lui, c'est de regarder vers le passé et de se dire que Barack Obama et d'ailleurs Ronald Reagan ont tous les deux une première année assez catastrophique avec des chiffres de popularité assez bas, quoique beaucoup plus élevés que ceux de Joe Biden actuellement. Mais ils étaient remontés. Ils avaient été d'ailleurs réélus par la suite grâce d'une part à la relance économique et d'autre part, à leur charisme personnel. Reagan, comme Obama, étaient des gens qui avaient des personnalités qui leur ont permis à eux seuls remonter la pente. Mais Joe Biden n'est pas charismatique. Et surtout, il est très vieux et ça commence à se voir. Et d'ailleurs, un sondage récent a montré que plus de 50% des Américains répondent non à l'affirmation « Joe Biden est en bonne santé ».
On comprend, Axel, que ça s'annonce compliqué pour Joe Biden. On passe à la courbe de Donald Trump, plutôt dans une bonne dynamique. Il a l'ambition de la faire grimper jusqu'où ?
Alors, Donald Trump, c'est un peu une fusée à deux étages. Dans un premier temps, le premier étage de la fusée, c'est la conquête du Capitole. Mais cette fois-ci,
par les urnes.
Par voie légale et par les urnes. Donc, faire élire tous les députés et tous les sénateurs qui lui sont favorables. Ça, c'est en novembre. Et puis, deuxième étage de la fusée, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on lui prête, c'est ses ambitions présidentielles. Son ambition présidentielle, c'est la conquête de la Maison-Blanche, ou la reconquête, plus exactement, en 2024. Mais, encore une fois, il reste à voir, d'abord, un, quel sera le résultat des élections de mi-mandat en novembre, et puis, deuxièmement, quelles sont ses intentions réelles.
Et aussi, quels sont les éléments qui peuvent venir contrarier cette ascension?
De toute façon, en 2024, il y aura une primaire pour le camp républicain. Alors, à la primaire, lui, il va avoir des opposants. Certains, pour le moment, personne ne se dévoile. Il n'y en a qu'un vraiment qui a l'air de tenir la corde, c'est Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. Le deuxième obstacle éventuel, c'est la commission d'enquête parlementaire sur les événements du Capitole de l'année dernière, avec éventuellement des mises en examen, voire le déclenchement d'une enquête par le ministère de la Justice sur lui personnellement. Donc, soit des enquêtes sur son entourage qui peuvent l'affaiblir, soit sur lui personnellement. Troisième élément, c'est la décision de la Cour suprême qui est attendue au printemps ou à l'été et qui pourrait revenir sur la légalisation de l'avortement, de l'interruption volontaire de grossesse, et donc qui remobiliserait bien évidemment la base démocrate et l'électorat féminin. Enfin, il y a la question de l'âge. Donald Trump a aujourd'hui 75 ans. Dans 2 ans, il en aura 77. Au moment de l'élection, il en aura même 78. Et donc, nul ne peut dire aujourd'hui dans quel état de santé cet homme-là, qui a l'air bien robuste, sera à ce moment-là.
À l'élection de 2024, Donald Trump, tu l'as dit, aura donc 78 ans et Joe Biden aura presque 82 ans. Mais tu viendras nous reparler de ces deux-là bien avant ça. Axel, merci beaucoup.
Merci.
Axel Gilden du service Monde de l'Express. Je rappelle qu'on peut retrouver tous tes articles sur le site internet de l'Express. Le premier mois d'abonnement numérique est offert. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier, Fanny Marlier et Walter Laguerre. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.